Souvenirs sur l'affaire, chapitre 4. Maintenant que j'ai dessiné la configuration du champ de bataille, il faut que je procède au dénombrement homérique des combattants. Parmi les hommes que j'admirais, parmi ceux que je connaissais, parmi ceux que l'affaire m'a fait connaître, lesquels furent des adversaires et lesquels des compagnons d'armes. Je les appelle du fond de ma mémoire et, dans ce tourbillon de souvenirs, je retrouve quelques-uns de mes sentiments d'alors. Je ressens l'étonnement enthousiaste ou la déconvenue amère qui accueillait certains ralliements inescomptés, certaines défections désolantes. En fait, le classement des individus dans l'un ou l'autre camp ne me surprit guère moins que n'avait fait la constitution même de ces camps hostiles. J'étais jeune, et il y avait quelque chose que l'expérience ne m'avait pas encore enseigné. C'est que la plus fallacieuse des opérations de l'esprit est de calculer d'avance la réaction d'un homme ou d'une femme vis-à-vis d'une épreuve réellement imprévue. On se trompe presque à coup sûr quand on prétend résoudre ce calcul par l'application des données psychologiques déjà acquises, par une sorte de prolongement logique du caractère connu et de la vie passée. Toute épreuve est nouvelle et toute épreuve trouve un homme nouveau. Parmi les vedettes de l'antidreyfusisme et même du dreyfusisme, certaines n'occupaient pas leur place logique, leur place logiquement prévisible, et ces chassés-croisés déconcertaient ma candeur. Certes, ce n'est pas sur Jaurès que porta ma méprise. Il était dreyfusard du plus ancien contingent, et je n'avais jamais conçu qu'il pût ne pas l'être. Il l'aurait été naturellement, comme on respire, quand bien même l'autorité de Lucien R. ne se fût pas exercée sur son esprit. Je ne connaissais pas encore cet homme à qui je devais tant m'attacher durant sa vie, et qui devait renouveler la mienne après sa mort. Je le rencontrai dès les premiers conciliabules, chez R., rue du Val-de-Grâce, et ce fut encore Lucien R. qui me conduisit chez lui. Il habitait, rue Madame, dans une demeure qui n'était ni vieille ni neuve, un tout petit logis de professeur. Il le quitta vers le milieu de l'affaire pour s'installer en haut de Passy, dans les trois chalets que les journalistes du temps décrivaient comme une coquette villa ou comme une résidence cossue. Je me revois en face de lui, opprimé par quelque chose de plus pesant que l'émotion, par cette puissance d'admiration et de don qui était naturellement en moi et que l'affaire exaltait encore. Je sentis très vite, par une communication presque immédiate, que son dreyfusisme n'était pas seulement l'effet d'une conviction réfléchie, qu'il y avait en lui, par surcroît, une générosité chevaleresque, une sorte de donquichottisme, parfois téméraire, comme on le vit dans l'affaire Siveton, qui le portait d'instinct au redressement de tous les torts, au secours de toutes les injustices. Je compris plus tard jusqu'à quelle profondeur du terme il était humain, ce qui signifiait vraiment pour lui l'idée d'humanité, et pourquoi, dans chaque injustice humaine, il était enclin à chercher une explication symbolique des iniquités collectives. Oui, je ne m'étais pas trompé sur Jaurès. La réalité était seulement allée au-delà de mon espérance. Mais pour Anatole France, par exemple, je n'aurais pas osé espérer. Lorsque j'appris qu'il était dreyfusard, je fus enchanté, mais étonné. Jamais, sur mes données d'alors, je n'aurais eu l'audace de construire logiquement le France des meetings de Faubourg, le France de M. Bergeret à Paris, le France de la sublime oraison funèbre prononcée sur la tombe de Zola. Je le connaissais, lui, avant l'éclat de l'affaire. Il m'avait encouragé et accueilli dès mes premiers essais de la Revue Blanche. Est-ce que la perfection même de sa culture et de son métier, l'universalité de son scepticisme, le retrait volontaire de sa personne, ne semblait pas l'isoler d'avance de toute action? Le sage et l'artiste semblaient pareillement dépaysés dans la bataille publique. France s'y jeta cependant, à corps perdu, sans rien réserver ni ménager de lui-même. Il s'y jeta avec une résolution telle qu'il serait puéril d'expliquer sa décision par des influences d'entourage et d'attachement, et l'explication serait d'autant plus vaine en ce qui le touche que je n'ai guère approché d'homme plus secret et moins perméable. Mais le recul me fournit aujourd'hui les données qui manquaient alors à ma prévision. Je comprends qu'au fond de France, il y eut toujours, comme il l'a d'ailleurs dit lui-même, la foi rationaliste, que son scepticisme universel était le doute méthodique de Montaigne, de Descartes, voire des positivistes, et qu'au bout du compte, il n'y a pas tant de différence entre l'abbé Jérôme Coignard et M. Bergeret. France fut Dreyfusard parce que le travail méthodique et scientifique de l'intelligence était à ses yeux la seule réalité certaine. N'est-ce pas lui d'ailleurs qui, pendant la crise la plus aiguë de l'affaire, devait conclure un discours de réunion publique par ces quelques mots admirables à force d'être simples? Nous aurons raison parce que nous avons raison. Comment aurait-on pu prévoir, en septembre 97, que la Ligue de la Patrie française aurait bientôt à sa tête Jules Lemaître et François Copé? Lemaître, dont le scepticisme frivole ne reposait assurément pas sur des fondations rationalistes. Copé, avec son attendrissement discret, et Casanier, de vieux garçon. Je ne pensais alors ni à l'un ni à l'autre, mais quand je cherchais à repérer d'avance avec mes amis les hommes importants qui seraient sûrement Dreyfusard, je soutenais obstinément qu'Henri Rochefort prendrait place dans l'équipe. Un recueil de souvenirs apparut sous le titre charmant « Au temps des équipages ». Mes histoires, à moi, se placent au temps où l'Intransigeant était un journal du matin et où les 100 lignes quotidiennes de Rochefort lui procuraient la plus forte vente de Paris. La recrue aurait été de belle taille, car nul n'exerçait plus d'empire que Rochefort sur la portion la plus légère, la plus versatile, par conséquent la plus passionnée de l'opinion publique. Il n'y avait rien de chimérique à escompter son enrôlement. En prolongeant dans ses directions connues la biographie compliquée de Rochefort, on obtenait un Dreyfusard. On ne pouvait guère imaginer pour lui de joie plus sensible que de montrer un innocent dans l'homme que tout le monde avait considéré comme coupable. Son penchant dominant et constant était de défier tout pouvoir constitué, de prendre le contre-pied de toute tradition établie et de toute opinion reçue, de mettre en échec toute chose jugée. Il offrait un exemplaire parfait de ce qu'on appelait alors l'esprit d'opposition systématique et qu'on qualifie aujourd'hui de non-conformisme. J'ajoute qu'il avait passé, lui aussi, par les mains d'un conseil de guerre, qu'il avait eu, lui aussi, son île du diable. Pourquoi Rochefort a-t-il manqué à sa vocation présumée? Dans les journaux de guérilla dreyfusiste, dans Les droits de l'homme par exemple, dont Jean A. Jalbert était le plus ardent rédacteur, on se tirait d'affaire avec une historiette commode. Rochefort, déjà vieux, venait d'épouser une femme très belle et très jeune. La chronique maligne assura qu'un Dreyfus étant mêlé à certaines mésaventures conjugales, quiconque portait ce nom lui devenait odieux. Des causes plus futiles ont déjà produit de plus grands effets. Il se peut aussi que l'apparition du journal L'Aurore, qu'aurait créé contre lui son plus intime collaborateur, Ernest Vaughan, et qui fut tout de suite un organe dreyfusard, l'ait ancré dans sa prévention hostile. Je pense, aujourd'hui, que Rochefort, ami du général Boulanger, frappé avec lui par la haute cour, fraîchement revenu d'exil, céda surtout à cette solidarité boulangiste qui nous échappait alors et dont j'ai essayé de montrer la force. Mais à l'inverse, pourquoi Clémenceau a-t-il été dreyfusard? Il a tenu dans l'affaire un si grand rôle qu'il ne nous semble plus, aujourd'hui, que son nom puisse en être séparé. Pourtant, appliqué à son cas, que donnait la méthode de construction sur les caractères connus, de prolongement logique? Certes, il avait des amis et des familiers dreyfusards, Scherer-Kestner, Vaughan, qui venait de l'appeler à la direction politique de l'Aurore, Gustave Geffroy, le milieu Ménard d'Orient. Mais quels indices pouvait-on tirer de sa carrière passée d'homme public, carrière qui, depuis le Panama, semblait close pour jamais? Il avait été le chef d'un radicalisme nationaliste et chauvin, formé après 1871 dans le remous de la défaite subie. Il avait accusé Gambetta de préparer une réconciliation franco-allemande. Il avait combattu Ferry, parce que l'expansion coloniale usait, hors du continent, la force militaire de la France, parce qu'elle détournait de la revanche. Il avait imprimé une marque nationaliste jusqu'à la campagne anticléricale. Les catholiques français lui étaient suspects en tant que soumis à l'évêque de Rome, à un souverain étranger. C'est lui qui avait fait Boulanger, et il avait marché de conserve avec le parti boulangiste un bon bout de chemin. Pendant la fin de sa vie politique, on a pu se rendre compte assez clairement qu'une erreur de jugement, une violation des formes légales, un individu frappé à tort, expiant un faux crime, ne pesait guère dans son esprit, ne mettait pas un instant en balance l'instinct simple de l'intérêt national. Ce jacobin était, au premier chef, l'incarnation de la raison d'État, du fait du prince, de l'ordre collectif prévalant sur la justice. Que comptait pour lui une vie humaine? La forme de son imagination le rendait d'ailleurs peu accessible à la pitié. C'était une personne étrange qui poussait la misanthropie jusqu'à un cynisme cruel, qui ne croyait à la pureté ou à l'efficacité d'aucune action humaine, et pour qui l'action était cependant une nécessité impérieuse, un besoin vital. Logiquement, pour suivre sa ligne naturelle, il aurait dû prendre la tête de la résistance, se faire l'apologiste de la raison d'État, l'interprète de l'instinct national surexcité. Il aurait dû se hisser au gouvernement dans la bagarre, et camper 20 ans plus tôt, en pleine affaire Dreyfus, le Clémenceau de la guerre. A-t-il jamais recomposé ainsi sa destinée pendant ces dernières années de gloire et de solitude? Ce qui est sûr, c'est qu'il a cherché l'issue vers le pouvoir dans l'autre sens, et qu'il l'a lentement trouvée. Il vivait alors à l'écart des cercles politiques, d'où l'avait exclu depuis près de 4 ans, la haine de ses adversaires, la lâcheté de ses amis. Il essayait, avec une sobre et infatigable énergie, de se refaire une vie de journaliste et d'écrivain. Se refaire une vie, c'est se refaire une jeunesse. peut-être eut-il, dans cet intervalle, une phase d'attendrissement, d'élargissement généreux. Je crois surtout qu'il fut touché par l'étroite et curieuse parenté que l'histoire de Dreyfus offrait avec ses récents malheurs. Car, lui aussi, il venait d'être la victime d'une erreur judiciaire. Lui aussi, il avait été condamné sur la production d'un bordereau qu'il n'avait pas écrit. Lui aussi, il avait été flétri comme un traître par des faussaires. S'il avait été renié par ses amis, abandonné par ses électeurs, chassé de cette chambre où il tenait la première place, c'est parce qu'on avait porté à la tribune et répandu à profusion dans le pays les documents ineptes, grossièrement fabriqués par un novice du métier, qui le dénonçait comme un agent stipendié de l'Angleterre. La falsification des documents Norton avait été prouvée. Elle avait même été avouée. Mais la légende n'avait rien perdu de sa virulence et il restait encore accablé sous le désastre. Venger Dreyfus, n'était-ce pas se venger un peu lui-même? Si les injustices subies sont proches par leur nature et dans le temps, un retour égoïste peut prendre l'aspect de la sympathie humaine. Quand, vers le début de décembre 1897, on se préoccupa de rassembler des signatures pour les premières listes dreyfusardes et que la besogne fut distribuée entre tous les démarcheurs de bonne volonté, je me chargeai avec empressement de Barrès. Je l'avais connu dans le bourg de Lorraine où vivaient ses parents, et où j'allais parfois passer quelques semaines de vacances chez un vieil oncle maniaque. C'est dans la maison de son père qu'il m'avait reçu pour la première fois, lui encore un jeune homme, moi encore adolescent. Mais depuis lors, combien de fois j'étais venu frapper le matin à sa maison à lui, rue Caroline, tout près de la place Clichy. Je le trouvais tout en haut de son petit hôtel de peintre, dans l'atelier qu'il avait transformé en bibliothèque. Je tombais au milieu de la leçon d'armes qu'il s'imposait chaque matin et qu'il était ravi d'interrompre. Il disait au prévôt « Alors, à demain !» et à moi « Allons, asseyons-nous. Qu'avez-vous fait cette semaine ?» Je m'abandonne à ces souvenirs parce qu'ils me sont restés chers, parce que je trouve de la douceur à suivre leur pente. Je revois la grâce fière et charmante de son accueil, cette noblesse naturelle qui lui permettait de traiter en égal le débutant timide qui venait de passer son seuil. Je suis sûr qu'il avait pour moi de l'amitié vraie, presque une sollicitude de frère aîné. Bien des années plus tard, après la longue séparation qu'entraîna l'affaire, quand nous nous retrouvâmes à la chambre, il me dit un jour « Vous avez aimé ma jeunesse, et elle vous le rendait bien. » Il y avait 10 ans entre nous, la même distance d'âge qu'entre Paul Bourget et lui. Dans cette génération d'écrivains qui avait immédiatement précédé la mienne, il était pour moi, comme pour la plupart de mes camarades, non seulement le maître, mais le guide. Nous formions autour de lui une école, presque une cour. Nous sentions bien que lui-même, si vite comblé par le succès, préférait de bien loin son ascendant sur la jeunesse à la faveur de ses aînés. Puisqu'il était notre chef, eh bien, il allait nous suivre. Nous avions tellement senti comme lui qu'il ne pouvait pas penser autrement que nous. J'aurais presque engagé de moi-même sa signature et j'étais confiant, joyeux, quand j'allais le trouver, ce jour d'hiver, dans sa nouvelle maison du boulevard Maillot. Il ne me répondit ni oui ni non. Il ne me cacha pas son trouble. « Je suis à peu près au fait, » me dit-il. « Jamais je n'ai rencontré plus fréquemment Zola. J'ai encore déjeuné avec lui ces jours passés. » Pas plus que Bourget, il ne dissimulait son admiration pour Zola. Il ajouta « Zola a du courage, c'est un homme. Mais pourquoi ne dit-il pas tout ce qu'il sait? Et au fond, que sait-il ? » Il se tut un instant et continua. « Il y a un souvenir qui m'obsède. J'ai assisté, il y a 3 ans, à la dégradation de Dreyfus. J'ai écrit un article dans le journal, vous vous rappelez ? Eh bien, je me demande si je ne me suis pas mépris. Je me rends compte que chacune des attitudes, chacune des expressions de visage que j'interprétais comme le signe d'une scélératesse totale, parfaite, comportait aussi le sens inverse. Dreyfus, était-il le scélérat ? Était-il un stoïque, un martyr ? Je n'en sais plus rien. Je me souviens de ses paroles, non des miennes. Sans doute, j'essayais d'exploiter l'avantage, mais il coupa court. Non, non, je suis troublé et je veux réfléchir encore. Je vous écrirai. Je ne compris pas que ces 3 mots « je vous écrirai » contenaient déjà le refus. Je rendis compte de ma mission avec une satisfaction un peu orgueilleuse et j'attendis la lettre. Barrès m'écrivit en effet quelques jours plus tard. Il me parlait encore de Zola avec amitié, avec respect, mais il ne voyait d'aucune part, disait-il, de vérité prouvée. Les réticences calculées des Dreyfusards l'inquiétaient, l'irritaient. Dans le doute, c'est l'instinct national qu'il choisirait pour point de ralliement. Cette lettre tomba sur moi comme un deuil. Quelque chose était brisé, fini. Une des avenues de ma jeunesse était close. Je crois aujourd'hui que Barrès ne se décida pas sans un pénible débat. Il dut sentir que son choix décidait du reste de sa vie. Jusqu'alors, il était parvenu à concilier le Barrès boulangiste avec le Barrès de « Sous l'œil des barbares » et de « Un homme libre ». Désormais, il optait. Il optait du même coup entre son public préféré d'écrivain, dont il se coupait, et ses compagnons de lutte politique. La solidarité boulangiste l'avait entraîné, lui aussi. Il me semble que je vois assez clair, maintenant, dans cette crise intérieure. Je sais aussi que l'action politique n'était nullement pour Barrès, comme je l'avais cru, un exercice, un délassement, presque un jeu. Que l'attrait de biographies comme celle de Canning, de Chateaubriand, de Disraeli, ne s'était pas exercé seulement sur son imagination. Je puis aujourd'hui reconstituer cet état d'esprit avec équité, probablement avec justesse. Mais je n'éprouvais alors que l'effondrement d'un enthousiasme, qu'un abattement amer, qu'une désolation. Ai-je su faire sentir, à travers ce récit, tout ce que la passion dreyfusiste recelait de force dramatique. Le drame Barrès fut pour moi le plus pathétique, mais il ne fut pas seul. André Gide avait été le condisciple de Pierre Louys à l'école alsacienne avant de devenir le mien à Henri IV. S'étant lié tour à tour avec lui et avec moi, ils nous avaient liés l'un avec l'autre. Tous 3 ensemble, pendant ma dernière année de lycée, nous avions fondé le petit recueil poétique intitulé « La Conque », où Paul Valéry publia ses premiers vers. André Gide fut tout de suite Dreyfusard, mais Pierre Louys, déjà célèbre depuis Aphrodite, fut tout de suite anti-Dreyfusard. Pourquoi ? Je ne le sais pas exactement. Il y avait en Pierre Louys beaucoup de mystères. Il était toujours difficile de peser la dose de calcul et la dose de mystification qui entrait dans chacun de ses actes. Ce que je sais bien, c'est que nous cessâmes aussitôt de nous voir, d'accord, en silence, sachant bien que toute explication était superflue. Je pense qu'il se disait secrètement comme moi, « Bah, on se retrouvera tout de même un jour, la vie est là pour nous réunir. » On se dit cela chaque fois que l'amitié, au lieu de se flétrir lentement, de dépérir, est brusquement tranchée en pleine force. Mais c'est la mort qui vient, et je n'ai jamais revu Pierre-Louis. Il ne me semble pas que, même pendant la guerre, on ait assisté à ces séparations brutales, et, par contrepartie, à ces amitiés soudaines, créées séance tenante par la conscience d'un assentiment. Une petite scène, à la fois banale et bizarre, me revient à la mémoire, et je la transcris parce qu'elle me paraît fournir un témoignage significatif. Au printemps de 1898, j'allais un matin chez un dentiste, dans le fauteuil de qui je m'étais assis déjà deux ou trois fois pour des soins rapides. C'était un homme encore jeune, avec le visage et l'allure d'un officier de cavalerie. En venant me chercher dans le salon d'attente, il me dit à brûle-pourpoint « Tout de même, ils n'oseront pas toucher à Picard. » Je le connaissais à peine. Jamais nous n'avions échangé un mot sur l'affaire. Mon premier mouvement fut un retrait. Je me sentis même un peu offensé. Comment sait-il que je suis Dreyfusard? Pourquoi a-t-il décidé, à part lui, que je devais être Dreyfusard? Est-ce parce que je m'appelle Blum? Parce que je suis juif? Ces réflexions passèrent comme un éclair, et je sentis que j'avais devant moi un ami. Ce tri automatique est sans doute ce qui, durant les années si pesantes de l'affaire, a rendu la vie non seulement tolérable, mais heureuse. Une brusque projection avait éclairé des fonds d'âme que la plus longue intimité n'avait pas ou n'aurait pas pénétré. On ne vivait qu'avec des amis du même sentiment que soi, puisque ceux qui ne le partageaient pas avaient cessé d'être des amis, puisque ceux qui le partageaient étaient devenus des amis par là même. Dans les cercles de jeune littérature que je fréquentais le plus familièrement, l'atmosphère dreyfusarde accusait une homogénéité presque complète. Après la mort glorieuse et précoce de Laconque, qui disparut au bout de 10 fascicules, j'avais écrit, quoique moins régulièrement, au banquet, dont la vedette était Marcel Proust. Tout l'ancien groupe du banquet était dreyfusard, à commencer par Proust, Fernand Gregg, Daniel Alévi, Jacques Bizet. Ce groupe, formé à Condorcet, se conservait d'ailleurs dans le salon dreyfusard de Madame Strauss. Depuis la conque et le banquet, j'étais passé à la Revue Blanche, qui dura plus longtemps, dont j'étais le collaborateur assidu depuis plusieurs années. Réserve faite pour Pierre Weber et pour Lucien Mulfeld, qui, somme toute, s'étaient déjà détachés de nous, toute la Revue Blanche était militante. Elle était dirigée par les trois frères Natanson. Son secrétaire de rédaction était un étonnant personnage, d'un flegme immuable, d'une courtoisie sarcastique et sinueuse comme une arabesque, qui s'était composé le visage de l'oncle Jonathan dans les caricatures anglo-saxonnes, l'anarchiste Félix Fénéon. Thaddée Natanson avait assisté de Mange comme défenseur de Fénéon, inculpé dans la fournée anarchiste du procès des Trente, et il avait gardé avec l'avocat de Dreyfus une liaison assez suivie. D'autre part, il était familier de Joseph Reynac et de quelques maisons dont Joseph Reynac était l'arbitre. Il avait aisément convaincu ses frères, et Fénéon s'était fait son avis tout seul. Nous nous retrouvions à la revue vers la fin de chaque journée. Outre les Natanson et Fénéon, il y avait là, de fondation, Tristan Bernard, Coulus, le petit clan des peintres amis, puisque chaque groupe de jeunes écrivains a ses peintres, c'est-à-dire Vuillard, Bonnard, Roussel, Valeton. Presque chaque soir, à la même heure, la porte s'ouvrait avec fracas, et l'on entendait, de l'antichambre, la voix et le rire éclatant d'Octave Mirbeau. L'âme violente de Mirbeau, tiraillée entre tant de passions contraires, ne se donnait pas à demi. Il s'était jeté à corps perdu dans la bataille, bien qu'aucune affinité naturelle ne l'inclinât à s'enrôler sous le nom d'un juif, parce qu'il aimait l'action et la mêlée, parce qu'il était généreux, et surtout parce qu'il était pitoyable, parce que la vue ou l'idée de la souffrance, souffrance d'un homme, souffrance d'une bête, souffrance d'une plante, était littéralement intolérable à son système nerveux. On était là. On commentait les dernières nouvelles du temps comme le communiqué pendant la guerre. On mettait en commun ce que chacun avait appris de côté ou d'autre pendant la journée. Aux faits exacts, on mêlait les fausses rumeurs et les bobards. On confiait avec orgueil le nom de l'homme politique, de l'écrivain, du savant, qui venait à son tour d'être touché de la grâce. On s'irritait contre les notables trop prudents qui hésitaient encore à publier leurs convictions intimes. Oui, Poincaré était Dreyfusard, c'était sûr, mais quand donc le proclamerait-il à la tribune? Rostand était Dreyfusard, mais quand donc Jules Renard le déciderait-il à signer les listes? Hervieux était Dreyfusard. Mais quand donc surmonterait-il la crainte de mal administrer son nom? Il n'y avait pas d'autre sujet d'entretien. Toute autre forme de vie semblait suspendue. Chez Tristan Bernard, je retrouvais le milieu de la Revue Blanche, mais élargi, étendu. Tristan Bernard était lié depuis sa jeunesse, je crois même depuis ses années de lycée, avec un groupe de chartistes auquel Bernard Lazare avait lui aussi appartenu. Il y avait eu dans ce groupe deux écrivains de grand don, un poète et un prosateur, Ephraim Michael et Marcel Schwab. Michael était mort à la fleur de l'âge, Schwab était déjà touché par la maladie, mais leurs compagnons Quillard, Collière, Hérold figuraient au premier rang de notre cohorte. Quand on organisa un peu partout les grands meetings destinés à porter l'affaire devant la conscience populaire, Pierre Quillard fut l'un des orateurs habituels, aux côtés de Mirbeau et de Jean Psicary. Marcel Collière, dont le nom est oublié, et que tout désignait pourtant pour devenir une grande vedette de journalisme, fut un des plus ardents polémistes de la cause. D'autre part, on rencontrait chez Tristan, presque aussi fréquent dans sa maison que dans celle de Lucien Guitry, ceux que l'on appelait alors les humoristes, bien que ce vocable ne convainc exactement qu'à l'un d'entre eux, Alphonse Allais, Alfred Capus, Jules Renard. Capus et Renard étaient l'un et l'autre des Dreyfusards absolus, intransigeants. L'un et l'autre, d'ailleurs, étaient assidus au petit conseil de guerre de la Revue Blanche. Ceux qui n'ont approché Capus que 20 ans plus tard auront peine à penser que l'agréable et souriant Capus de ce temps-là était un esprit parfaitement libre. Pour Jules Renard, nul ne sera surpris, et lui-même a laissé un témoignage irrécusable dans son extraordinaire journal. Jules Renard fut même parmi les écrivains de sa génération l'un de ceux que le dreyfusisme orienta vers le socialisme. Quand Jaurès fonda, quelques années plus tard, l'Humanité, Jules Renard consentit aussitôt à y écrire, comme Mirbeau et Gustave Geffroy, et aussi comme Abel Hermant et Georges Lecomte. Ainsi, l'affaire laissa à peu près intacte la cohésion de mon milieu habituel. Les maîtres surtout nous manquèrent, ceux que nous avions le plus admirés, ceux autour de qui notre génération littéraire s'était rassemblée. J'ai suffisamment parlé de Barrès. Heredia, si hospitalier, si bienveillant envers les jeunes gens, dont la maison avait toujours été si noblement ouverte, se tenait à l'écart de ce bruit qui l'offusquait. Mallarmé s'isolait, développait entre l'affaire et lui le filet protecteur de son rêve. Somme toute, nous n'avions plus que France avec nous. Je continuais à le voir, le plus souvent chez lui, Villa Saïd, parfois chez Madame de Caillavé. Là, tout était Dreyfusard, la maîtresse du logis, son fils Gaston de Caillavé, les amis inséparables de son fils, Robert de Flers et Paul Grunebaum, qui fut plus tard le collaborateur ou l'inspirateur de Briand. Madame de Noailles apparaissait comme une princesse d'Orient descendue de son palanquin et embrasait du feu de ses regards le flot de ses paroles. Joseph Reynac montait souvent en voisin. Clémenceau, Jaurès et plus tard Briand venaient parfois. Lucien R., qui aimait à rudoyer, gourmandait Jaurès sur cette mondanité. « Figurez-vous, disait Jaurès, que j'ai dîné hier chez Madame de Caillavé. Et que, comment, interrompait R., vous allez dans le monde maintenant? Rappelez-vous qu'il y eut autrefois un homme qui s'appelait Ferdinand Lassalle. » Cependant, je passais presque chaque matin à la librairie Bellay, que Charles Péguy et R. venaient d'installer rue Cujas, et qui était le quartier général du Dreyfusisme au quartier latin. Les tarots y faisaient quelquefois visite. Ce fut même la librairie Bellay qui édita leur première plaquette. Mais j'avoue que je ne me souviens pas si les tarots étaient ou non Dreyfusards. Exception faite pour eux et pour Péguy, ce n'est pas dans les lettres que les habitués de la rue Cujas ont laissé un nom. Les élèves de l'école normale s'y rencontraient, avec les étudiants libres, avec leurs aînés des dernières promotions, avec leurs maîtres. J'ai connu là Albert Thomas. J'y ai connu aussi Paul Langevin et Jean Perrin, qui, aujourd'hui, après plus de 35 ans passés, retrouvent ce point de départ et boucle la boucle de leur vie. C'est de la librairie Bellay que devait partir ce mouvement vers le peuple, assez analogue en son essence au mouvement russe que Tourguenieff a décrit et qui couvrit rapidement le sol d'université populaire. Ernest Lavis, alors directeur de l'école, n'était qu'un Dreyfusard de fort intérieur, mais presque tout le corps enseignant marchait ouvertement avec Lucien R., avec Gabriel Monod, avec Handler, avec Paul Dupuis. La Sorbonne, les facultés, avaient été gagnées dans une large proportion. Dans l'ensemble, l'université, prise à tous ses degrés, fut la première catégorie sociale ou professionnelle sur laquelle le dreyfusisme put prendre appui.